Alors,
Si on veut comprendre l'homme, on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger.
Et l'ouverture sera totale ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de textile, d'architecture, d'anthropologie, de Cachemire, de l'Allemagne nazie, de la neutralité belge et même de Jacques Lacan. Avec Sheila X, une exposition à la Galerie Elbaz à Paris, un solo show à la FIAC, retour sur le parcours d'une artiste hors norme qui travaille le fil et le tissage depuis les années 60, Manu Farine.
Ou comment faire du fil le véhicule de la ligne, du dessin, de l'écriture, du volume et de l'architecture, le tout en coloriste.
19h35, plateau Confidence avec Monique Lévi-Strauss qui signe Une enfance dans la gueule du loup, récit autobiographique de 6 années passées en Allemagne de 1939 à 1945, toujours Manu Farine.
Ou comme elle l'écrit, le destin singulier d'une enfant belge de mère juive à qui on impose de vivre en Allemagne sous le Troisième Reich.
19h50, la session sera blues électro avec Blackstrobe, une programmation signée et défendue par notre réalisateur Thomas Beau. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagane que l'on ouvre bien sûr avec le son du jour. Jour de Zoé Sfez.
Je me sens soulagé car une taxation des œuvres d'art aurait vraiment fait du tort à la culture française. Moi, je suis à Paris depuis plus de 20 ans et je me souviens que déjà à ce moment, on parlait de ce projet. Il n'y a rien de vraiment nouveau, il y a toujours eu une idée de taxer l'art.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Alors c'est votre son du jour.
De l'après-midi même Laurent, aujourd'hui. Alors celui que vous entendez, c'est le galeriste Tadeusz Ropak. Il évoque l'amendement qui avait été déposé par les députés UDI et qui visait à intégrer les œuvres d'art dans le calcul de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Eh bien il a été rejeté cet amendement cet après-midi à l'Assemblée nationale par 18 voix contre 3. Il avait pourtant été adopté la semaine dernière par la commission des finances de l'Assemblée. Il était soutenu notamment par les écologistes et sur le principe par le Front de Gauche, qu'il n'a finalement pas voté parce qu'il le juge techniquement trop faible. Nous reviendrons évidemment sur cette question du calcul des œuvres d'art dans l'ISF la semaine prochaine. Semaine spéciale Journal de la Culture, semaine spéciale Art Contemporain dans le Journal de la Culture.
Une petite précision avant de continuer, bien sûr il s'agit de la galerie Franck Elbaz et non pas Albert Elbaz. En fait je crois que j'aime trop la mode. Et l'on poursuit avec votre supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagane.
Bonsoir Laurent.
Et pour ouvrir ce supplément, et bien votre séquence du téléspectateur hebdomadaire. Et aujourd'hui, vous êtes en ligne avec les États-Unis.
Oui, partant du principe qu'il n'y a pas qu'à Paris que l'on a un avis, j'ai décidé d'appeler de temps à autre dans cette séquence ma correspondante américaine, Laurent. Et ma correspondante, elle s'appelle Séverine Barthes. Elle est spécialiste de séries. Elle est maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle. Et elle vient de s'installer pour un temps à San Francisco, au moment même où toutes les grandes chaînes de télé font leur entrée.
Donc, quel a été l'objet de votre premier coup de fil ?
Eh bien, ce qu'il faut savoir, Laurent, c'est qu'aux États-Unis, la grande majorité des programmes de télé de soirée, ce sont des séries. Et puis des séries. Et les Américains sont donc invités à choisir, télécommande à la main, parmi une multitude de productions et mises en avant par les grandes chaînes produites.
Vous avez un problème avec votre casque.
Oui, j'ai un problème avec mon casque.
Vous allez presque vous étouffer.
Non, mais j'ai l'impression qu'il m'attire sous la table, ce câble. C'est très
ne cool. Soyez pas sexuel.
Donc, les Américains sont invités à choisir parmi de nombreuses productions. Et j'ai demandé à Séverine Barthes de me faire part de ce qui l'avait étonné dans son nouvel environnement sériel.
Ce qui est étonnant quand on arrive de France, c'est qu'effectivement, toutes les séries sortant en même temps ou sur un laps de 2 à 3 semaines, toutes les chaînes communiquent en même temps. Tout tourne autour de ces séries et de quelques séries, en fait, sur lesquelles les chaînes matraquent leur communication. You work for me. You work for me. Do you understand? I work for Chicago. You understand? Chicago. Alors les séries qui sont sur lesquelles on communique beaucoup, me semble-t-il, sont des séries qui se présentent un peu de manière bipolaire, c'est-à-dire avec des oppositions ou des paradoxes. On a par exemple la série About a Boy, dont le slogan, hein, puisqu'ici les séries ont des petits slogans de présentation, on appelle ça des taglines, c'est « You don't have to be family ». Il n'y a pas besoin d'être de la même famille pour être une famille. Ou alors, on peut encore penser à Chicago PD, dont le slogan, le motto est « Break the rules, not the law », transgresser les règles, pas la loi.
From the creators of Law and Order, a new crime drama, the series premiere of Chicago PD, 9 o'clock Wednesday on 5 USA.
Alors comment vous l'expliquez ça, que l'on aille dans cette direction-là?
Moi, j'ai l'impression qu'on essaye un peu de récupérer les recettes du câble. On sait bien que depuis quelques années, le câble joue sur ces personnages un petit peu ambivalents. Dexter, policier le jour, tueur en série la nuit, Breaking Bad, professeur de chimie et dealer. On a une sorte d'inachevé, d'inabouti dans les deux sens. Ce n'est ni du network qui s'assume, ni du câble qui s'assume.
Et l'on enchaîne tout de suite avec votre revue de l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Alors lundi, c'était Manuscrit.
Oui, suite à une dépêche du correspondant de l'AFP au Mexique, dimanche, la presse a relayé lundi l'actualité du musée d'anthropologie de Mexico, qui présente jusqu'en janvier prochain, et pour la première fois, dit-on, des manuscrits sur le passé préhispanique du Mexique, vus par des historiens aztèques. Une exposition qui met en avant notamment un codex, dont on avait beaucoup parlé en mai dernier, puisque le Mexique l'avait acquis à l'Angleterre pour $1 million afin d'éviter sa mise aux enchères.
Mardi, c'était Cathy.
En effet, Catherine Deneuve a reçu mardi un prix pour l'ensemble de sa carrière au Festival du film de Bombay, la capitale de Bollywood. Et la presse française, émue par la remise de ce prix, a donc largement relayé les propos puissants de l'actrice, qui apparemment très touchée, a déclaré « C'est un grand honneur, c'est agréable d'être en Inde, un si grand pays de cinéma comme l'est la France ».
Mercredi, mais c'était Mickey.
Et à l'occasion des 80 ans du journal de Mickey, pour accompagner la sortie en kiosque du dernier numéro, le journal octogénaire a glissé un collector, le tout premier numéro, alors je l'ai là, si vous voulez le voir, Laurent, le tout premier numéro du journal de Mickey qui date du 21 octobre 1934. Et dans leur rubrique Actualité internationale, le journal mettait en avant la dernière innovation technologique. Alors voici ce qu'ils écrivent. On vient d'inventer, en Amérique, bien entendu, le plus petit poste récepteur, alors entre guillemets « in the world ». On le glisse dans sa poche aussi facilement qu'un stylo. C'est un poste à galène, composé d'un crayon autour duquel il est enroulé le fil d'accord. Grâce à deux petits écouteurs, on obtient, paraît-il, d'excellentes auditions, d'une portée de plusieurs centaines de kilomètres. Nous allons donc bientôt être tous munis de notre poste portatif.
Bravo Mickey. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le prince Harry.
Le réseau social sans fil du 21e siècle, Facebook, a annoncé la liste des 10 livres préférés des utilisateurs français de son réseau. Une information relayée sur de nombreux sites et médias, c'est dire son importance. Alors voici donc, Laurent, le palmarès des lecteurs français de Facebook. Alors en fait, c'est plutôt des lectrices. Elles seraient majoritaires, 74%. On trouve dans ce top, en 10e position, Le Parfum de Patrick Susskind. À la 9e place, Les Fourmis de Bernard Werber. Vous me laissez enchaîner, vous ne voulez pas faire un peu Marc Toesca?
Et de la 8e à la 4e place.
L'étranger d'Albert Camus, L'alchimiste de Paulo Coelho, 1984 de George Orwell, Les fleurs du mal de Baudelaire, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien.
Et le trio de tête, c'est
ça de Stephen King, Le Petit Prince et Harry Potter.
Il me paraît évident que vous ferez de grandes choses, Monsieur Potter.
Waouh! Enfin, c'est Facebook hein, qui raconte ça.
Oui, mais
on n'est pas obligé de le croire.
Ça dit quelque chose quand même.
Oui, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Sheila X et Monique Lévi-Strauss? Sheila X, il y a quelque chose que vous voudriez commenter?
Je trouvais que c'était intéressant que vous êtes entouré avec un fil.
Vous auriez aimé qu'il s'étouffe avec, j'ai l'impression.
Ça manque de couleur.
Oui, mais vous êtes enfilé, vraiment.
Ah, mais véritablement, oui.
Et embobiné.
C'est ça.
Et en contact avec Californie.
C'est ça.
Pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde.
Voilà, c'est génial.
Oui, et oui. Mais le Harry Potter, oui. Ça
meilleur
gagne.
Livre.
Ça gagne partout. Hein.
Monique Lévi-Strauss.
Enfin, j'ai été intéressée par la liste des...
livres préférés des Françaises.
Oui, des livres préférés des Français. Voilà.
Un commentaire sur cette liste-là?
Non, c'est intéressant. Enfin, je n'avais aucune idée préconçue, ça m'intéressait. Voilà.
Est-ce qu'il y en a un qui a été cité parmi qui vous intéresse plus particulièrement dans la liste?
Non, je ne peux pas dire qu'il y en ait un qui...
Bon, je suis sûr que vous avez adoré Les Fourmis.
Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas.
On commence.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
On vous a invité toutes les deux, Sheila Hicks et Monique Lévi-Strauss, parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Vous, Sheila Hicks, vous avez encouragé Monique Lévi-Strauss à faire le récit de son enfance pendant la guerre. On va en parler dans quelques instants. Et vous, Monique Lévi-Strauss, vous aviez signé une biographie de Sheila Hicks en 1973. Quand et comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux, Sheila Hicks?
Vous avez une meilleure mémoire que moi.
Allez, bon, Monique
alors Lévi-Strauss. Je vais y aller. Eh bien, nous étions invités à dîner chez des amis qui habitaient Quai aux Fleurs. Et le mari de Sheila, à l'époque, était un peintre chilien, mais de l'école de Paris. Et il était ami avec la femme qui nous invitait, qui était chilienne, comme le mari de Sheila. Et au cours du dîner, j'ai posé des questions à Sheila. Elle m'a expliqué qu'elle était une artiste du fil, qu'elle faisait des tapisseries, mais qui étaient des sculptures. Alors, je n'avais jamais vu de sculpture en tapisserie, ça m'a intéressée. Et puis, elle m'a dit, mais écoutez, si vous êtes si curieuse, pourquoi ne venez-vous pas faire une visite à mon atelier, je vous montrerai mes œuvres. Donc, quelques jours après, j'ai visité son atelier, je me suis beaucoup intéressée à son travail. Et alors, ce que m'a dit Sheila par la suite, elle a aimé les questions que je lui ai posées, mais ça, je n'en étais pas consciente sur le moment. Quand je suis rentrée chez moi, après la visite à l'atelier de Sheila Hicks, naturellement, j'ai raconté à mon mari, parce que... Claude Lévi-Strauss, parce que mon mari était un grand travailleur, il était tout le temps à la maison en train de lire et d'écrire, et il n'allait pas beaucoup voir les ateliers d'artistes, donc je lui racontais. Et je lui ai raconté de manière à lui faire envie de connaître cet atelier. Donc, rendez-vous fut pris et peut-être une semaine après, un samedi après-midi, nous sommes allés visiter tous les deux l'atelier de Sheila. Et mon mari s'est vraiment intéressé à son travail pour une raison que je vais vous dire. Mon mari était américaniste, ethnologue, mais spécialiste de l'Amérique. Et il a reconnu dans le travail de Sheila l'utilisation de techniques traditionnelles, de techniques de tissage traditionnelles chez les Indiens d'Amérique du Sud. Et ça l'a beaucoup intéressé qu'une jeune artiste du XXe siècle reprenne les traditions anciennes. Donc, il a vraiment bien regardé son travail. Et puis, quelques semaines plus tard, Sheila m'a dit qu'elle était ennuyée parce qu'on lui avait proposé de faire une exposition dans une galerie du boulevard Saint-Germain et que la personne qui dirigeait cette galerie souhaitait qu'il y ait, sur le carton d'invitation, qu'il y ait un petit texte de quelqu'un de connu, une référence. Bon, et alors Sheila m'a dit, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu connais quelqu'un à qui je pourrais m'adresser? Bon, et j'ai dit, je n'ai aucune idée. Et alors le soir, j'en ai parlé à mon mari en me disant, peut-être que lui a une idée.
Donc vous aviez bien une idée derrière la tête?
Non, pas du tout. Non, mais rien n'était prémédité. Je peux vous dire, c'est arrivé comme ça.
Parce... Encore plus, imagine que je ne savais pas qui c'était Claude Lévi-Strauss.
Oui.
Américaine. Arrivée à Paris.
Oui, elle débarquait à Paris. Elle avait
J'avais une vague connaissance de le nom, mais vraiment, j'imagine la stupidité et le et d'oser de demander un texte de quelqu'un comme ça. Donc, je m'ai mis bien clair que je ne pas essayer d'avoir texté Lévi-Strauss.
Et j'ai pas du tout eu l'impression qu'elle me demandait à moi.
De demander à Claude
Lévi-Strauss. Non, mais elle disait, tu connais les écrivains à Paris, est-ce que tu... Parce que, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va demander à un écrivain et on lui propose une petite œuvre en échange. Donc, c'est une transaction. Donc, elle voulait savoir qui est-ce qui serait ouvert à ce type. Moi, je n'avais aucune idée. Donc, j'en parle à mon mari. Et il me dit, je vais y penser. Bon, et puis quelques heures passent. Et mon mari m'a dit, écoute, pour un carton d'invitation, moi, je peux lui écrire une demi-page parce que vraiment, elle fait des choses intéressantes. Je vais faire ça pour elle. c'était très généreux, mais c'était tout à fait le genre de mon mari. Il trouvait que c'était, enfin, que ça allait de soi. Donc, je n'ai pas dit à Sheila, mais quelques jours plus tard, Claude m'a donné le texte et j'ai été voir Sheila, qui justement était dans un moment de grand souci parce que son fils venait de se faire opérer des yeux. Alors, elle était à la clinique, elle était en souci. Et j'ai été la voir et je lui ai dit, j'ai un petit papier pour toi. Alors voilà, c'est le début d'une grande amitié.
Plateau Fil avec vous, Sheila X, donc artiste américaine, installée en France depuis 50 ans maintenant. Votre œuvre est présente dans la plupart des grands musées du monde, une œuvre identifiée ni à la peinture, ni à la sculpture, pas même à l'architecture, ou à la tapisserie, ou à l'artisanat, mais à tout ça à la fois, avec une constante, le travail du fil et du tissage, et ce depuis les années 60. On va y revenir. Vous exposez actuellement à la galerie Franck Elbaz à Paris, avant un solo show dans quelques jours à la FIAC. Unknown Data, données inconnues, c'est le titre de l'exposition, pour une des nouvelles pièces, donc des tableaux de laine, coton, lin, des petites balles textiles qui emprisonnent des trésors, des dessins à fibres ou plumes, d'immenses sculptures colorées de corps, de lianes sauvages, lin peinture qui semble comme chuter ou couler verticalement dans l'espace. Qu'est-ce que ce titre, données inconnues, raconte de ce travail ?
Comme vous dites, je travaille depuis 50 ans, mais à mon avis, mon travail, ce n'est pas bien connu. C'est connu par des petits chapitres au secteur, au morceau. Mais j'avais fait mes études comme plasticien, comme peintre, avec Albers de Bauhaus.
Joseph Albers, oui, à Yale.
Voilà. Après, j'avais une bourse pour partir en Sud-Amérique, Chili. J'ai passé en route, bien sûr, à Équateur, Pérou, Bolivie. Et j'ai adopté toute cette connaissance précolombienne dans mon œuvre comme plasticienne, disons, plutôt beaux-arts. Quelle pagaille!
Je peux imaginer.
Et très mal connu. Qui va le voir et même qui va l'accepter comme art?
Qui va comprendre, en effet, que c'est de l'art, oui.
Non. Et c'était... Tout le monde a trouvé que c'était intéressant, sympathique, curieuse. À quoi ça sert? C'était comme ça pendant peut-être 20 ans. Mais à quoi ça sert? Ça sert de me apprendre le langage le plus ancien du monde, que c'est le textile, le tissage et l'idée des croisements des fils dans lesquels on habite, dans lesquels on s'entoure tous les jours. Et c'était une recherche qui m'a fasciné. Et en fait, ça m'était égal si c'était considéré comme toutes ces autres catégories que vous avez nommées. C'était mon petite recherche à moi.
Quelle technique particulière vous avez découvert en arrivant au Chili d'abord? Quelles sont les techniques qui vous ont intéressé?
La chose que j'ai découvert au Chili, c'est qu'ils ont tué presque tous les indigènes. Donc, très peu de textiles restés. Très peu de tissages restés. Par contre, à Bolivie, Pérou, Équateur, dans les autres pays, il y avait quand même une population indigène qui continuait de tisser comme on l'avait pendant des centaines d'années. Backstrap loom, par terre. Hommes et femmes,
oui.
Hommes et femmes, et les enfants inclus, qui savaient filer. Les enfants étaient des pasteurs avec le yama, wanako. Tous les animaux les plus beaux au monde avec la laine, alpaca. Donc, des familles entières travaillaient d'accompagner les animaux à l'altiplano, après préparer la laine, après tisser la laine, et développer un vocabulaire, une structure le plus vaste, le plus compliqué, le plus extensive dans toute l'histoire des textiles au monde. Quand on pense qu'il n'avait pas un langage écrit, mais il avait une sophistication intellectuellement. Imagine le croisement des fils. Engineers. Amazing.
Incroyable.
J'étais complètement épatée par ça.
Une farine.
Qui vous a appris alors véritablement au fur et à mesure toutes ces techniques-là, sachant que dans un premier temps, avant même d'aller sur place, vous aviez vous-même commencé un petit peu à... Vous dites que vous avez commencé à imiter un peu ces techniques, que vous n'étiez pas très satisfaite de ce que vous faisiez.
Je ne savais pas même imiter parce que je ne savais pas tisser. J'étais complètement autodidacte. La chose que j'essayais de faire, c'est apprendre comment les choses... J'avais vu des diapositives, des photos dans une classe avec un professeur qui s'appelait George Kubler.
Qui était historien de l'art d'Amérique latine.
À Yale. Fabulous professeur. Fabulous.
Donc, il vous a montré des photos.
Ouais. Il avait, chaque année, comme dans une école d'art, je ne sais pas si on fait tellement maintenant, mais dans le temps, nous étions obligés de prendre l'histoire de l'art tous les semestres. Hein. Et quand j'ai tombé sur l'histoire de l'art précolombienne, et le professeur Kubler, j'ai décidé d'écrire une thèse et d'essayer d'apprendre moi-même comment est-ce que ces choses étaient faites. Donc, j'ai commencé, pas du tout d'imiter, mais d'essayer de répliquer. Et je n'arrivais pas. Je suis toujours à l'étape d'essayer d'apprendre ça.
Vous vous souvenez, Sheila X, de la première pièce dont vous y étiez satisfaite? La première pièce que vous avez réussie?
C'est en cours. J'ai mis la chaîne sur un petit métier improvisé dans la cuisine avant-hier. Oui. Et j'ai mélangé des fibres que je n'ai jamais mélangées. Des ananas avec le soie, avec le bambou.
Et du bambou, oui.
Avec le coton. Imagine. Toutes les couleurs. Très, très beau. Et je pense cet week-end, je m'élance. Et mardi prochain, peut-être, je réussis.
Monique Lévi-Strauss, est-ce qu'il y a des œuvres plus particulières dans l'œuvre de Sheila X qui vous ont marqué dans ces tapisseries, sculptures, peintures, architectures? Est-ce que vous vous souvenez d'exposition?
Je ne peux pas dire qu'une œuvre m'a plus marqué qu'une autre, mais j'ai une particulière tendresse pour ces miniatures. D'abord parce qu'on peut vivre avec. Et puis, je trouve qu'elles disent beaucoup. Ce sont comme de petits tableaux. Et je les aime particulièrement.
Manu Farine.
Sheila X, alors comme à tous nos invités cette semaine, cette saison, pas cette semaine d'ailleurs, ce sera tous les jours, on vous a demandé d'apporter un son et vous avez choisi ceci.
Matalata natra kola wapting nesrane o para son sora tanka malaka teja natra kola watka nesrane o para son sora patatalata kamiaka ti wapting nesrane o para son sora.
Identification de ce son, Sheila X. Qu'est-ce qu'on entend et pourquoi l'avoir choisi?
Je suis incapable de traduire, mais c'est quechua. Hein? C'est la langue de l'altiplano du Pérou.
C'est un enfant qui chante?
C'est une jeune femme qui chante. C'est une fille, probablement un enfant, oui.
Et qu'est-ce qui vous marque plus particulièrement dans ce son?
On sent l'altitude. On sent que nous sommes à une très, très grande altitude. Et qu'elle marche. Qu'elle n'est pas seulement assise. Elle est en train de marcher. Elle est en train de filer en marchant. Et en train de s'occuper de la fortune de la famille. Le Wanako, le Yama.
Monique Lévi-Strauss parlait à l'instant de miniatures. Pour autant, quand vous êtes installée au Mexique, vous allez aussi gagner votre vie comme photographe d'architecture. Et cette question de l'espace, de l'échelle, va prendre de la place dans l'élaboration de votre langage, avec des formats étirés jusqu'au monumental. Je pense par exemple à l'installation évolutive qui se trouvait au Palais de Tokyo à Paris, qui était plus proche de l'architecture. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce jeu d'échelle entre le monumental et la miniature? À quel moment vous passez à la monumentalité chez Laïx?
C'est un coup de folie. Si on voit une fourmi, et si on voit un gratte-ciel à New York, on se trouve un peu au milieu. On essaie de se situer et de prendre les deux exemples extrêmes et de se trouver une façon de vivre avec. Vivre avec le détail dans la vie et de soigner tous les détails. Et de ne pas avoir peur de prendre un avion, de bouger, de changer de culture, de monter dans un ascenseur au 5e, 60e, 80 étages, et de voir le monde de cette perspective aussi. Donc, Palais de Tokyo, quand je entrais, ils m'ont offert cet vaste espace. Vous voyez l'entrée?
À l'entrée, oui.
Ils ont dit, fais quelque chose.
Oui.
Je me suis assis sur la marche et je me suis dit, on y va, on va le faire. Et pour la troisième fois cette année maintenant, j'ai installé un nouveau environnement qui va être inauguré dimanche soir.
Monique Lévi-Strauss, vous vouliez, je crois, intervenir après le chant que l'on a entendu tout à l'heure. Je vous sentais sur le point d'intervenir.
Non.
Pas particulièrement. Manu Farine.
Alors, je voulais revenir sur ce fil comme langage chez Laïx, hein, qui s'est donc établi assez vite, en tout cas déjà pendant vos études à Yale. Mais vous dites que ça remonte encore à plus loin. Qu'est-ce que cet intérêt pour le fil doit à votre enfance passée au Nebraska, je crois?
Vous savez où c'est, Nebraska?
Mal.
Je demande assez souvent. Vous avez vu le film cette année, Nebraska, qui est arrivé ici à Paris, aux Champs-Élysées? J'étais fière. Je suis allée avec Monique pour voir le film. Imagine, Nebraska, aux Champs-Élysées, à Paris. Donc, Nebraska, c'est loin. C'est loin de tout. C'est en plein centre des États-Unis. Et je viens d'une famille qui sont venues probablement en covered wagons to Nebraska. And it was so far away.
C'était très loin.
Très. Once there, what do you do?
Une fois qu'on est là-bas, qu'est-ce qu'on fait?
Rester. Parce que c'est tellement loin d'aller à soit Californie, soit Colorado, soit le Gold Rush, hein? Soit les gens qui sont venus en bateau aux côtes est. Qu'est-ce que j'ai découvert? Mon amie, Monique, il savait où c'est Nebraska. Vous savez pourquoi?
Oui, Monique, les choses, pourquoi?
Je vais vous dire, quand j'ai rencontré Sheila, ce fameux dîner qui est aux fleurs, elle m'a aussi dit qu'elle venait du Nebraska. Et j'ai dit, ah oui, elle m'a dit, mais vous savez où c'est?
Déjà même, donc en 73.
Et j'ai dit, non seulement je sais où c'est, mais j'ai été deux fois à Omaha et ma mère y est enterrée. Et Sheila m'a dit, mais vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée en France qui savait où était le Nebraska. En plus, vous y avez été, mais ça nous a lié rien que ça.
Je demandais si elle a rencontré Marlon Brando quand elle était là. Parce que je donne ça toujours comme référence. Marlon Brando vient de Nebraska. Vous savez?
Non, je ne savais pas. Et alors, le fil, quel rapport avec le fil au Nebraska?
Tout le monde à Nebraska est familier avec le fil. Mais toutes les femmes au monde connaissent qu'est-ce que c'est le fil. Tous les mères, tous les enfants, même tous les hommes qui portent des chaussures avec des lacets. Ou qui ont un peigne et qui commence à se faire beau le matin. Il commence à sentir les choses qui c'est, comme le fil, les cheveux. Voilà, c'est une chose tellement familière à nous qu'on prend comme quelque chose totalement banal, hein? Trivial. Mais c'est tellement important de savoir qu'est-ce que c'est et comment le traiter et comment, how to enjoy it and how to use it au maximum.
Monique Lévi-Strauss-Kahn, qui avait été la biographe de Sheila Hicks, est-ce qu'il y a un épisode dans sa vie plus marquant qu'un autre pour vous ou qui a fait écho à votre propre parcours?
Non, je ne peux pas répondre à ça. Non, mais il faut demander à Sheila si elle pense qu'il y a quelque chose. Non, moi, je ne vois rien.
Sheila Hicks?
Vous êtes gentil de me reposer la question parce que comme ça, je vois où ce que vous...
Je demandais à Monique Lévi-Strauss, qui est votre biographe, s'il y avait un épisode dans votre vie qui l'avait marqué plus particulièrement. Et elle vous retourne la question. Est-ce qu'il y a un épisode dans votre vie?
Oui, c'est de vivre, c'est de m'asseoir et vivre dans sa cuisine à la campagne, à Lignerolles, à Côte d'Or, et de voir les magies, de voir comment est-ce qu'il prépare le repas et la nourriture. Parce que c'est un... elle est géniale. Géniale. Et moi, métier que je ne connais pas du tout. Je mange bien, j'aime beaucoup manger, comme ça se voit.
Ça
va? Et j'ai une faiblesse pour les gens qui aiment aussi des bonnes nourritures. Oh, j'habite en France, vous savez, pour un bon
pour cette raison-là.
Pour un bon raison. Mais quand je vois Monique comme une magicienne dans sa cuisine, incroyable.
Eh bien, plateau confidence avec vous, Monique Lévi-Strauss. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage Somme sur les châles en Cachemire au XIXe siècle, auteur aussi d'une biographie de Sheila Hicks, on vient d'en parler. Et vous publiez aujourd'hui aux éditions du Seuil un récit qui est en lice pour le prix Médicis Essai, titre « Une enfance dans la gueule du loup, soit comme vous l'écrivez, le destin singulier d'une enfant belge, de mère juive, à qui on impose de vivre en Allemagne sous le Troisième Reich. Ce « on », c'est celui de votre père. Cette histoire-là, c'est la vôtre, qui va vous mener de 1939 à 1945, c'est-à-dire entre l'âge de 13 ans et 19 ans en Allemagne, avec votre père, belge, ingénieur, qui a voulu travailler dans la Ruhr, et votre mère, juive qui le suit, et votre frère. Vous avez attendu 50 ans avant de raconter comment vous aviez vécu la guerre, et le moment qui a déclenché cette prise de parole, c'est pas aujourd'hui, c'est en 1995. À l'époque, vous veniez de tirer les 3000 négatifs ramenés par votre mari Claude Lévi-Strauss du Brésil. Qu'est-ce que ce travail-là a bien pu libérer ? Pour que ce soit à ce moment-là que vous preniez la parole.
Alors, c'est tout à fait lié. C'est-à-dire que, avant de commencer ce travail avec les photos, je venais de perdre mon travail de directrice de collection chez un éditeur parisien, un éditeur de beaux livres. Et donc, je me suis trouvée du jour où il avait fait faillite. Et donc, je me suis trouvée du jour au lendemain avec du temps. Et dans l'organisation de ma vie, j'avais réservé des heures tous les jours pour ce travail de directrice de collection. Et du jour au lendemain, je me suis trouvée avec beaucoup d'heures de libre. Et je n'avais plus d'enfants à la maison et mon mari avait fini d'écrire ses grandes œuvres. Il a encore écrit 5 ou 6 livres, mais c'était des livres pas du tout de la même envergure. Et donc, je me suis dit, j'ai du temps. Le moment est venu de s'occuper de ces 3000 négatifs qui ne valent rien si on ne les identifie pas. Et mon mari avait encore des yeux et il travaillait tous les jours à son bureau et je lui ai dit si on faisait ça. Bon, le problème, c'était évidemment de trouver quelqu'un qui allait tirer ces photos et puis nous avons décidé que nous n'avions financièrement pas les moyens de payer quelqu'un et que en plus c'était dangereux de les donner à un laboratoire à cause du piratage. Et puis finalement je me suis dit mais je peux peut-être apprendre la technique, j'avais presque 70 ans, mais enfin bon. Et J'ai demandé à mon fils qui avait fait ça quand il était adolescent. Et nous avions consacré un cabinet de toilette dans notre appartement.
On avait fait une chambre noire.
Et on avait fait une chambre noire.
Donc à 70 ans, vous apprenez l'art de révéler la photographie.
Oui, alors j'ai demandé à mon fils, j'ai dit « Est-ce que tu veux bien me donner des leçons ?» Il m'a dit « C'est pas la peine, tu es trop vieille. » Et j'ai dit « Mais on peut quand même essayer, même quand on est vieux. » Enfin bref, il s'est laissé convaincre. J'ai demandé une liste de produits, j'ai tout été acheté. Puis un dimanche matin, il m'a fait une leçon. Puis il m'a dit, tu te débrouilles maintenant. Bon, et pendant toute la semaine, j'ai fait des essais. En fait, c'est pas sorcier. Surtout que c'était un très vieil appareil, un agrandisseur absolument manuel. Donc,
Mais comment ça, ça vous donne l'idée de raconter votre propre récit?
Ah, mais alors c'est très simple. Ce que je faisais pour Claude, c'était d'attraper les derniers vestiges avant qu'il ne meure. Et je me suis dit, ce que je fais pour Claude, une fois que j'ai eu fait ce travail, je me suis dit, il faut que je le fasse pour moi aussi. Voilà, c'est ça le parallèle entre les deux.
Alors, pendant ces 50 ans, puisque vous n'en aviez pas, enfin, j'imagine que vous en aviez parlé, mais en tout cas pendant 50 ans, qu'est-ce que vous avez fait de cette histoire-là? Comment est-ce que vous l'aviez transmise?
Cette histoire-là, j'aurais voulu en parler parce qu'elle elle me tourmentait énormément, cette histoire-là. Enfin, tout le temps, je me disais, mais ce n'est pas possible que je sois encore en vie puisqu'on a vécu là. Enfin, et je ne pouvais pas en parler. Donc, ça m'a travaillé, disons. Et cette histoire, je l'ai
roulée. Pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas en parler?
Parce que ça n'intéressait personne.
Ça intéressait votre mari?
Ah, je lui ai raconté, bien sûr. Mais je pouvais lui raconter qu'une fois.
Ça m'intéressait énormément.
Oui, et mes amis proches connaissaient très bien l'histoire, bien sûr. Mais on ne peut le faire qu'une fois.
Ça vous a été intéressé énormément, Sheila X?
Vous êtes même remercié d'ailleurs.
Énormément, ça m'intéressait. Parce que c'est une histoire tellement rare. Et qui montre comment survivent des choses les plus inattendu et faire de chaque jour un meilleur possible et arriver à la prochaine et de continuer prudemment, avec prudence, mais avec sûreté et avec humour, il faut dire aussi, et d'aider les autres autour aussi, pas être totalement prise par soi-même, mais pour tous les autres aussi. C'était quand même une histoire trop bon à ne pas compter.
Monique Lévi-Strauss, vous qui avez connu Lacan, vous dont la mère et toutes ses amies ont fait une psychanalyse dans les années 30, vous dont une partie de la famille était liée à l'entourage de Freud, vous n'aviez jamais envisagé de vous allonger et de raconter cette histoire sur un divan?
Oh ben non, c'était pas une histoire... non... Non, c'est pas une histoire qui me troublait avec moi-même, mais c'était une histoire, elle est tout à fait extérieure à moi, mais ce que j'avais vécu et de connaître l'Allemagne quotidienne comme je l'avais connue, c'était tout de même...
En tant que juive.
En tant que juive, ça me donnait encore plus d'objectivité, si vous voulez. Bon, mais je trouvais que ça aurait été très intéressant de pouvoir parler aux autres parce que ça allait tout à fait à l'encontre des idées reçues. Et je ne pouvais pas. Les gens étaient là avec tout. Par exemple, les gens me disaient tout le temps, oh oui, évidemment, tous les Allemands étaient des nazis, sinon ils auraient fait de la résistance. C'était idiot. Complètement idiot, mais je pouvais pas leur parler de ça. Dès que je commençais, ils disaient oh, et puis on parlait d'autre chose.
Alors, votre premier séjour en Allemagne, Monique Lévi-Strauss, pardon, c'est en 1938. Là aussi, c'est votre père qui vous y envoie pour faire un séjour linguistique. Quelle bonne idée, en pensant que votre nationalité belge protégerait la famille. Un séjour qui, dites-vous, vous a fait vieillir de plusieurs années. Vous aviez 12 ans, 13 ans à l'époque. De quoi étiez-vous consciente à cette époque-là?
Ben, non seulement j'étais consciente, mais j'étais chez des gens qui étaient plus que conscients et qui m'ont dit, dès que ça a commencé à aller mal, avant l'accord de Munich, quand même pendant les 8 jours avant, tout le monde se demandait si la guerre n'allait pas venir. Et ces Allemands chez qui j'habitais m'ont dit « on ne peut absolument pas te garder parce que l'idée d'avoir une bouche à nourrir en plus, c'est impensable ». Et donc je savais que c'était très très… enfin qu'on était… enfin qu'on courait le risque d'une guerre, c'était un risque énorme.
En quoi ces 6 ans passés en Allemagne avec votre mère juive qui vous demande même à un moment donné de la baptiser, l'épisode est absolument saisissant, en quoi ces 6 ans ont-ils modifié quelque chose dans votre rapport à la judéité, Monique Lévi-Strauss?
Bon, je ne sais, ça n'a rien changé, non. Pendant 6 ans, je n'ai pas pu dire que j'avais une mère juive et après je l'ai dit... disons, avec encore plus de simplicité, parce que j'étais heureuse de pouvoir le dire. Mais ça n'a pas modifié mon idée de la judéité.
Alors, vous racontez dans ce récit les années de lycée, l'internement de votre père, quand l'Allemagne envahit la Belgique.
Et là, ça va le faire changer d'avis, hein, quand même, sur le régime nazi.
Ah oui, bien sûr.
Oui, parce qu'au départ, il avait plutôt une certaine admiration, en tout cas pour la réussite économique.
Oui. Pas du tout pour l'idéologie. C'est-à-dire qu'il sous-estimait l'idéologie. Il disait, c'est simplement de la propagande, c'est pour que les gens comprennent les nouvelles lois économiques. Mais ce que voyait mon père, c'était surtout toute la nouvelle donne économique qui a très très bien réussi.
Alors donc ça, vous le racontez. Vous racontez également vos études de médecine, le retour des blessés de Buchenwald, après un bombardement, la défaite allemande, les camps de réfugiés, où vous êtes interprète provisoirement, le rapatriement, le retour à Paris en 1945, le départ aux États-Unis, vos études de médecine à Boston, le retour à Paris pour de bon, la rencontre avec Lacan et le dîner chez Lacan, où vous rencontrez Claude Lévi-Strauss. Et là, c'est la dernière phrase, et vous écrivez « C'est ici que s'arrêtent mes confidences. Point ». Un commentaire sur ce terme de confidence pour qualifier le récit, Monique Lévi-Strauss.
Mon récit est un témoignage, mais c'est aussi une confidence. Tout ce que je raconte quand même de mes parents et de leur vie conjugale, moi j'estime que c'est une confidence, c'est pas seulement un témoignage, il y a les deux. Vous êtes bien d'accord ?
Exactement. Alors, à ce sujet de confidence, parce qu'après, donc, oui. On est hors confidence, donc on n'en parlera pas. C'est la vie avec Claude Lévi-Strauss, 60 ans, dans l'appartement même où vous avez grandi avec vos parents, ce qui signifie que vous avez toujours vécu chez vos parents et que vous y avez même installé votre mari. Toujours pas de psychanalyse ?
Non.
Ces 6 années-là, c'est la seule chose que
ça,
vous...
C'est une piste cul-de-sac.
Ces 6 années-là, c'est la seule chose à raconter, c'est-à-dire le reste, après... C'est quelque chose qui ne peut pas faire l'objet de confidences, alors même que ces confidences ont par exemple travaillé donc la vie conjugale de vos parents. Après, c'est pas racontable, Monique Lévi-Strauss.
Ça serait merveilleusement racontable, bien sûr, et il y a des histoires fantastiques, mais simplement, ça serait indiscret à l'égard de mon mari, et mon mari était un homme très discret. Et puis, ça serait indiscret à l'égard de toutes les personnes qui jouent un rôle. Et on ne peut pas raconter une histoire sans raconter ce que font tous les autres, puisqu'on ne vit pas seul. Et moi, j'estime que ça serait trop indiscret. Et 70 ans, ça va. Comme éloignement, on n'est pas indiscret quand on parle des professeurs de lycée, ils sont tous morts. Enfin bon, tout ça n'a aucune importance. Mais si je parlais de ce qui se passait il y a 30 ans, j'aurais probablement des procès sur les bras tout de suite.
D'autant que même dans ce récit donc vieux de 70 ans, vous semblez rester à distance malgré tout. C'est-à-dire que le récit se déroule de façon très factuelle, parfaitement chronologique. Et dans ce récit factuel, il y a... pas vraiment de place pour le dialogue. À aucun moment, vous ne faites part de vos questionnements ou même de vos révoltes envers vos parents. C'est-à-dire qu'on ne sait rien véritablement de ce qui s'est joué entre vous, votre père, votre mère et vous. Est-ce que vous avez parlé ou reparlé de cet épisode allemand avec l'un ou l'autre ? Est-ce que vous leur avez demandé plus d'explications ?
Non, parce que sur le moment, c'est vraiment bien expliqué. On sait bien, dans ma famille, vous voyez, ma mère était en psychanalyse et vraiment, on disait tout. Je peux vous dire qu'on ne cachait rien. En plus, c'était une Américaine. Enfin, je peux vous dire que les Américaines, elles sont encore plus ouvertes que...
Elle regarde son ami Chilette.
Pour une Américaine, un chat est un chat beaucoup plus facilement que pour une, disons, une bourgeoise française.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé d'apporter votre son du jour. Eh bien, le voici. Identification du son Monique Lévi-Strauss. On écoute quoi et pour quelle raison?
On écoute Tosca
de Puccini.
De Puccini, et c'est tout à fait à la fin quand Mario sait qu'il va être fusillé, mais il croit que ça sera un simulacre et il a le grand espoir de pouvoir vivre avec Tosca. Et il rêve à elle, voilà. Et en fait, c'est ses dernières minutes.
Pourquoi avoir choisi cet extrait?
Ah, parce que c'est une musique que j'aime énormément, voilà, c'est tout.
Eh bien, on va rester tout de suite en musique, mais dans une autre dimension, la session.
Le rendez-vous, la session.
Session électropop, non pas du tout, plutôt blues, ça, blues électro avec Blackstrobe, une session programmée et défendue par notre réalisateur dont on entend la voix aujourd'hui.
Tout à fait.
Thomas
Beau. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. C'est une session électroclash, ou plus exactement ce soir effectivement électro blues. Ce soir dans le rendez-vous avec Blackstrobe. Alors Blackstrobe, il faut comprendre noir stromboscopique si on fait une traduction littérale, ce qui donne une idée du travail d'Arnaud Robotini, qui est l'un des deux fondateurs et leaders de cette formation depuis 1997. Blackstrobe, on les a vus avec leurs remix, on les a entendus plus exactement, par exemple Depeche Mode, The Hacker ou encore David Guetta dans des styles différents. On a même retrouvé leurs morceaux au cinéma avec des choses chez Tarantino, avec de la pub chez Dior également.
Et Dior qui a repris le même morceau d'ailleurs que Tarantino pour la bande-annonce de Django Unchained.
Exactement. C'est aujourd'hui donc leur deuxième album sorti le 6 octobre dernier. Ça s'appelle Godforsaken Woods, prononcé un petit peu comme vous en anglais. C'est chez Blackstrobe Records. La traduction, ça donnerait quelque chose comme des routes perdues, comme un bled perdu, ou en tout cas des routes qui pourraient mener à un trou perdu. Mais c'est des routes d'abord d'une efficacité redoutable et d'une modernité sans appel. Ce soir, donc, Blackstrobe, dans le rendez-vous, va interpréter Folsom Prison Blues. C'est une reprise d'un morceau de Johnny Cash dans les années 50, écrit au début des années 50. Un morceau qui raconte l'histoire d'un prisonnier qui, du fond de sa cellule, donc dans cette prison en Californie, écoute le sifflement d'un train et il imagine en même temps les voyageurs qui, eux, bien évidemment, sont libres. Et ça lui fait un petit peu de peine certainement. Du blues donc, mais du blues résolument actuel par le crooner Gominé que j'ai en face de moi et derrière vous Laurent.
Et on le verra parce que la session est filmée.
Voilà, exactement. Fan de Sergio Leone par ailleurs, il est entouré de 4 musiciens qui composent donc le groupe Blackstrobe. Mathieu Zub, aux guitares, Benjamin Beaulieu, basse, clavier, Mathis Dubois à la batterie et donc Arnaud Robotini, chant et clavier. Folsom Prison Blues, Blackstrobe, c'est à vous.
I heard a train a-coming, it's rotting round a bend. I haven't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to Sundown Town. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die.
When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks sitting in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me.
Donc Folsom Prison Blues, Black Strobe, le 31 octobre, ça sera à Biarritz en concert. Ça sera également le 1er novembre à Tulle, le 7 à la Sirène de La Rochelle, c'est joli. Et le 8 novembre à la Gaîté Lyrique avec Manuela Rebottini pour une expérience rock psychanalytique, Lacan Rocker, donc à la Gaîté Lyrique. Et évidemment, donc, l'album est sorti sous le label Black Strobe Records.
Je vous laisse regagner votre cabine technique.
J'y vais.
Elle dit...
Je trouvais que c'était intéressant que vous êtes entouré avec un fil.
Je n'avais jamais vu de sculpture en tapisserie, ça m'a intéressée.
Quelle pagaille!
Merci à nos invités, Sheila Higgs. Votre exposition à la galerie Franck Elbaz se termine demain avant de vous retrouver en solo show à la FIAC à partir de mercredi et donc un environnement dès dimanche au Palais de Tokyo à Paris. Monique Lévi-Strauss, Une enfance dans la gueule du loup, apparue aux éditions du Seuil. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain?
Les mutations métaphysiques sont rares dans l'histoire de l'humanité. Quand je dis mutations métaphysiques, je parle des transformations radicales et globales de la vision du monde adoptée par le plus grand nombre.
Demain, il faudra attendre lundi. Et lundi, ce sera théâtre welbeckien et anthropologie avec Julien Gosselin et Éric Chauvier. La désannonce, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Adrien Azeli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture et supplément week-end, Zoé Sfès et Benoît Lagagne. À la prise de son, Emmanuel Morse-Duncan, Élise Leu et à la réalisation, Thomas Beau.
Et je rappelle que la session est filmée et donc elle sera sur le site de l'émission. Désannonce, Hippolyte, ça c'est déjà fait. Il est 19h55, vous écoutez France Culture. C'est bien ?